Radio Kapi.
Le journal, Ronéline Sibonera.
Très près pour vous informer, les titres de ce journal, les braconniers grincent des dents dans la province du Nord Kivu. À Beni, l'ICCN et ses partenaires ont frappé fort en saisissant 30 kilos d'ivoire d'éléphant et une peau de lion destinée au marché noir. Dans la province de l'Ituri, certains criminels en provenance du Soudan du Sud franchissent la frontière congolaise pour semer le chaos dans les territoires d'Aru. Inquiète, les forces vives locales appellent l'État à prendre ses responsabilités. En RDC, l'organisation d'un dialogue national inclusif est sur toutes les lèvres et suscite déjà la controverse. Hier soir, l'émission Dialogue entre Congolais s'est penchée sur cette initiative, analysant son importance en pareille période. Un extrait est à suivre dans la rubrique invitée. Parlons de cette opération conjointe menée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et ses partenaires, qui a permis la saisie de 25 pièces d'ivoire d'éléphant d'un poids total de 30 kg, ainsi que d'une peau des lions le 17 juillet 2026 à Beni. Au moins trois présumés trafiquants ont été arrêtés, puis remis aux autorités judiciaires. Selon l'ONG Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH, ceci met en évidence l'ampleur des menaces qui sur les espèces protégées dans la région. Son secrétaire exécutif appelle à un renforcement de la coopération entre les institutions publiques, les organisations de la société civile et les services de sécurité afin de prévenir davantage les braconnages et les trafics de la faune sauvage dans un contexte marqué par l'insécurité. Maître Olivier Ndolé est au micro de Bernadette Nyangui.
Encore une fois, cette saisine démontre qu'il y a un lien entre le trafic illicite, l'exploitation de notre biodiversité et la fragilité du territoire dans le contexte des conflits et des guerres. Parce que tous ces trafiquants, leur objectif, c'est juste de se faire l'argent à travers des commerces illicites. Et à contrepartie, tous les groupes armés se nourrissent de ces activités illicites. Mais également, on ne doit pas seulement agir en saisissant les spécimens, mais l'essentiel serait de prévenir pour que ces spécimens, par exemple les éléphants abattus, les lions tués, je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler en amont pour réduire les braconnages, et cela passe par cette collaboration entre communautés, sociétés civiles, pouvoirs judiciaires, mais aussi forces de sécurité, les services aux frontières, les services aéroportiers puissent être vigilants et prévenir des cas futurs de trafic, mais aussi des braconnages.
En Ituri, les notables et les acteurs de la société civile du territoire d'Aru appellent le gouverneur de province à renforcer les mesures de sécurité face à la recrudescence de la criminalité et aux incursions d'hommes armés en provenance du Soudan du Sud. Dans une lettre adressée à l'autorité provinciale, il demande également l'organisation rapide des procès de présumés bandits déjà arrêtés afin de lutter contre l'impunité. Isaac Remoyope.
Depuis le début de l'année, le territoire d'Aru est confronté à une recrudescence de la criminalité, notamment dans la cité d'Aru et au centre commercial d'Ariwara, situé à environ 350 km au nord de Bunia. Selon les notables et les acteurs de la société civile, plusieurs cas de vols à main armée et de braquages visant principalement des commerçants ont été enregistrés ces derniers mois. Un policier figure notamment parmi les victimes. Par ailleurs, dans les chefferies de Kaliko au milieu de Kakwa, à la frontière avec le Soudan du Sud, des hommes armés franchiraient régulièrement la frontière pour piller les biens de la population et enlever les civils, toujours selon les mêmes sources. Plusieurs dizaines de personnes avaient été kidnappées au mois d'avril dernier. Les signataires de la lettre attribuent cette situation au faible déploiement, voire à l'absence des FARDC dans certaines zones frontalières. Ils demandent au gouverneur de faire de la sécurité une priorité de son action en renforçant la présence des forces de défense le long de la frontière. Ils appellent également les autorités judiciaires à organiser sans délai les procès des présumés bandits déjà interpellés afin de lutter contre l'impunité et de dissuader les réseaux criminels. Le gouvernorat de l'Ituri n'a pas encore réagi à ces préoccupations. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours en Ituri, nous parlons de cette nouvelle attaque attribuée aux présumés rebelles des ADF qui a été signalée lundi 20 juillet au carré minier des Mambaou dans les territoires de Mambasa. Selon des sources locales, les assaillants ont incendié plusieurs habitations avant de piller des biens commerciaux. Plusieurs civils auraient également été pris en otage, mais leur nombre n'était pas encore connu. Cette attaque intervient quelques jours après une autre incursion attribuée au même groupe armé à Tépé, où plusieurs maisons avaient été également incendiées. Face à cette situation, les acteurs locaux appellent les habitants des villages des Biloulou, Déla, Nyanza, Dar es Salaam et Angola à faire preuve de vigilance. Ni les autorités administratives, ni les responsables militaires dans la zone n'ont encore réagi à cette information. Dans la capitale de la République démocratique du Congo, un conducteur des mototaxis est mort électrocuté mardi à la place Force Publique dans la commune des Kassavubu. Selon des témoins, les drames sont survenus après une altercation avec des agents du service des transports. Une femme a également été blessée par balle lors de l'intervention de la police venue calmer la tension provoquée par la mort du motard. Ces drames a suscité colère et indignation parmi les habitants et les conducteurs de mototaxis qui réclament un meilleur encadrement du contrôle des documents de bord dans la capitale de la RDC. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ces faits se sont produits vers 11h de ce mardi. Des agents des services des transports ont intercepté un taximan moto alors qu'il transportait une cliente. D'après les témoins, les motards avaient présenté tous les documents de bord. Malgré cela, ces agents auraient continué à les retenir et lui auraient réclamé de l'argent. Il menaçait même de confisquer sa moto et de l'emmener au poste de police d'à côté. Une dispute a alors éclaté entre ses conducteurs et les quatre agents. Au cours de l'altercation, les motards a été poussé dans un caniveau où passait un courant électrique et du coup il est mort électrocuté sur place. La nouvelle de son décès a rapidement provoqué la colère des autres motocyclistes. Des actes de vandalisme ont été signalés, notamment contre un poste de police et plusieurs boutiques situées près du lieu du drame. Un taximan moto a appelé les autorités de la ville, a mis et organisé les opérations de contrôle des documents de bord afin d'éviter de tels drames dans l'avenir.
Que l'hôtel de ville, comme le ministre des transports, puisse s'associer pour organiser des obsèques dignes pour notre camarade et dédommager sa famille. Car la victime effectuait son travail pour vivre à la sueur de son front. L'État ne nous soutient pas, alors que avec nos taxes et autres.
L'incident relance également les débats sur la multiplication des services chargés de la régulation des transports dans la capitale congolaise.
Retour à Ituri où les organisations de la société civile veulent renforcer leur engagement dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Elles misent sur la sensibilisation de communautés afin de lutter contre la désinformation, réduire les résistances et encourager l'adoption de mesures de prévention. Réunis mardi à Bounia avec leur coordination provinciale, l'équipe de Riposte s'est engagée à accompagner cette initiative. Isaac Ramoyope.
L'épidémie d'Ebola continue de progresser à Ituri où 27 des 36 zones de santé sont désormais touchées. Pour les organisations de la société civile, le faible engagement des communautés reste l'un des principaux obstacles à la riposte. Selon elles, certaines personnes continuent de nier l'existence de la maladie ou hésitent à collaborer avec les équipes de santé, ce qui favorise la propagation du virus. Diedone Lossa appelle à renforcer la sensibilisation des proximités afin d'obtenir une plus grande adhésion des communautés.
Jusqu'à 16 jours, il y a encore des résistances. Beaucoup de malades se cachent dans la communauté et les taux de mortalité ne cessent de croître. Nous pouvons contribuer pour arrêter la transmission, diminuer les taux de mortalité, briser la résistance.
Le coordonnateur provincial de la riposte contre Ebola, Pierre Akilimali, salue cette démarche. Il estime que l'implication de la société civile à raison de sa proximité avec la population contribuera à améliorer l'efficacité de la riposte.
La société civile est plus proche de la communauté. Nous pensons casser les barrières, améliorer la confiance entre l'équipe de la riposte et la population et couper la chaîne de transmission et espérer le plus rapidement possible contrôler cette maladie.
La société civile de l'Ituri a présenté un plan de sensibilisation de 3 mois destiné à renforcer la mobilisation communautaire contre l'épidémie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur 2 souffre de la malnutrition chronique dans la province du Maniema. Selon une enquête nutritionnelle réalisée en 2024, les taux de prévalence est de 52,4%. Pour faire face à ces défis, des nutritionnistes participent à Kindu à une formation de 5 jours sur l'alimentation du nourrisson, du jeune enfant et la nutrition communautaire. Cette initiative est portée par le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient PADRIR. Son reportage signé Florence Kizalunga.
Pendant 5 jours, les participants seront formés sur la prise en charge nutritionnelle durant les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. C'est ce qu'explique David Nzengu, conseiller en genre, ciblage et inclusion sociale au PADRI.
Cette activité de formation des formateurs a été planifié, c'est pour répondre à un problème, à un défi après avoir réalisé en 2024 une enquête nutritionnelle qui a relevé que la prévalence de la malnutrition chronique est très élevée dans notre zone d'intervention. C'est ainsi qu'avant de mettre le paquet d'intervention en nutrition, nous avons préféré d'abord commencer par le renforcement des capacités.
Présent au lancement de la formation, le ministre provincial de la Santé espère que cette initiative contribuera à réduire les taux de malnutrition dans la province. Docteur Alexis Chomba.
Vous savez qu'il y a plusieurs années qu'on n'a pas pu organiser déjà des formations dans notre province, depuis 2015. Et nous, en tant que d'abord ministre de la Santé, nous saluons la tenue de cette formation parce que ça va peut-être réduire les taux de la malnutrition dans la province.
À la fin de cette formation, les participants auront pour mission de former à leur tour d'autres prestataires de santé dans différentes zones de santé du Maniema. Kindo, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Visitons le Congo central en faisant une escale à Matadi. Le comité national des retraités et ayants droit dénonce des conditions difficiles dans lesquelles vivent de nombreux anciens travailleurs de l'Office national des transports ONATRA. Ces retraités réclament le paiement de leurs décomptes de fin de carrière ainsi que le respect de leurs droits sociaux. Selon le comité, plusieurs d'entre eux attendent ces paiements depuis des années. Cette situation aurait déjà entraîné les décès de plus de 300 retraités au cours des 9 dernières années sans qu'ils aient pu percevoir ce qui leur était dû. Pour rendre hommage à ces disparus et soutenir leur famille, une messe des souvenirs a été célébrée lundi à Matadi. À cette occasion, la structure a également lancé un appel en faveur d'une plus grande justice sociale pour les anciens agents de cette entreprise publique. Nous écoutons Adonis Mavungu, président du comité des retraités de l'ONATRA. Dans la province du Congo central, il est au micro d'Élise Kavira.
Il y a des gens qui viennent de totaliser 14 ans, 12 ans, sans pour autant avoir leur clôture de compte. Et les salaires d'attente, il y a certains qui sont arrivés à 90 mois. Les retraités qui ont déjà eu leur clôture de compte, leurs rentes sont déjà arrivées à plus de 100 mois. Alors, vous voyez que les gens vivent sans salaire, sans rente, voire même sans être pris en charge par la CNSS, puisque l'ONATRA ne verse plus leurs cotisations à la CNSS, ce qui fait mourir nos gens. Alors nous devons quand même réclamer nos dus, parce que celui qui est retraité, il a déjà au moins 65 ans. Ce sont déjà des personnes qui vivent le troisième âge. Et avec ce manque d'énergie, le manque de paiement, ils ne savent plus se débrouiller comment ils peuvent vivre. Alors, en tout cas, ça leur fait du mal. Et c'est ce qui précipite leur mort. Ils attrapent facilement des AVC. Il leur arrive aussi d'avoir des glycémies élevées, hein, parce qu'ils ne bougent plus. Quand ces maladies ne sont pas prises en charge aussi, et ça les amène facilement à la mort.
Comment faire pour que l'aide extérieure contribue réellement au développement durable en RDC? La réponse se trouve dans les livres récemment publiés par Idesbald Chinamula. Cet expert en développement durable plaide pour une gestion axée sur des investissements structurants afin de sortir la RDC de sa dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Il développe cette requête dans son ouvrage intitulé « L'assistance technique au développement face à la crise de l'État en Afrique ». Exemple de la RDC. Présenté mardi à Kinshasa, cet ouvrage, en tout cas, attire des lecteurs. Explication avec Blaise Ndani Kambala.
Devant l'assistance réunie pour la présentation de cet ouvrage, Idesbald Chinamula insiste sur le fait que l'aide extérieure ne doit plus être dictée uniquement par les agendas des bailleurs de fonds, mais strictement subordonnée aux instruments de planification nationaux tels que le plan national stratégique de développement. Il appelle les Congolais à éviter la dispersion des ressources à travers des micro-projets non coordonnés et propose que chaque intervention extérieure s'intègre dans une vision sectorielle claire. Infrastructure, santé, éducation, l'association Agriculture. Idesbal Chinamula estime que l'État congolais ne doit pas continuer à compter sur l'aide extérieure, mais plutôt travailler à sortir les pays des sentiers battus.
L'État, par exemple, a une très très grande responsabilité. Il y a eu des projets pilotes qui ont réussi. Malheureusement, on n'arrive pas à traverser la phase des projets pilotes pour aller à l'échelle. Ça veut dire qu'on atteint, avec toute l'aide qu'on a réussi, on atteint un petit nombre de bénéficiaires. On n'arrive pas à étendre les bénéfices au-delà du petit nombre de bénéficiaires.
Pour sa part, le directeur général de l'École nationale d'administration ENA félicite l'auteur de cet ouvrage qui vise à soutenir la véritable autonomisation économico-financière de la RDC. Tombola Mouké plaide également pour le renforcement de l'expertise locale, l'auditabilité et la résilience institutionnelle. Préfacé par le professeur Daniel Moukoko Samba, cet ouvrage de 246 pages est paru depuis quelques mois aux éditions L'Harmattan à Paris en France.
Actualité internationale.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mardi 21 juillet le limogeage du commandant en chef de l'armée Alexandre Sirkis qui a été remplacé par le commandant populaire des forces interarmées Mikhailo Drapati sur fond de grogne après le départ du ministre de la Défense. Alexandre Sirkis, 60 ans, occupait ce poste depuis 2024. Il a notamment dirigé la défense de Kiev au début de l'invasion russe. Nous sommes en 2022.
L'invité.
Notre invité ce matin nous pousse à nous intéresser à la question du dialogue en République démocratique du Congo. Le président a échangé vendredi dernier avec les confessions religieuses de la RDC. Au cours de la rencontre, Félix Tshisekedi a annoncé à ses invités que le dialogue national inclusif sera organisé. À l'issue de cette audience, les confessions religieuses ont entamé des consultations auprès des différentes couches de la nation, tandis que la classe politique a commencé à réagir à cette information. Les intervenants de l'émission Dialogue entre Congo les dire se sont exprimés sur cette initiative. Écoutons-les dans cet extrait au micro de Dona Madimba.
Jean Bédel et Yuka.
Le problème, de notre point de vue, nous redisons ce que nous avons dit, n'est pas tant le dialogue qui est convoqué, ni de qui participe au dialogue. Mais c'est parce que tous disent c'est au nom du peuple. Tous disent que c'est aux fins de la stabilité des institutions de la République. L'État étant fragilisé du fait de crises multiformes. Donc, et c'est à cela que je ne partage pas tout à fait une partie de la première intervention de l'honorable Moindo, tout en rencontrant la deuxième partie, c'est que nous devons vouloir une chose, et être cohérent jusqu'à sa fin. Nous sommes en démocratie. Nous disons que nous restons cohérents par rapport à l'ordre institutionnel qui a été mis en place.
Encore 30 secondes. Oui, puisque nous sommes en train de conclure
l'émission. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, s'engager ou considérer la possibilité ou la nécessité d'un partage éventuel de pouvoir veut dire participer avec le pouvoir en cours dans la gestion de son mandat. Mais il faut, de l'autre côté, anticiper la réaction des autres. La conséquence serait la remise à carreau de l'ordre existant, et donc nous repartirions et contre l'ordre institutionnel que nous sommes tous en train de chercher à préserver. C'est comme ça que nous disons, dans le cadre du manifeste de Kasangulu, véritablement, nous devons pouvoir engager le sacrifice pour lequel nous déclarons tous, chercher, ça veut dire, on se bat pour le peuple, et nous allons clarifier des questions qui ne vont pas, les redresser et prendre des engagements pour que cette fois-ci, pour que ce dialogue soit différent des autres, merci, que nous puissions en sortir avec une quelque orientation nouvelle.
Merci, voilà. À vous.
Sinon, on aurait un nouveau gouvernement et puis finalement...
Et recommencer éternellement. Merci. Jean Bédel, Yoka, merci. Et Christian Moindo, justement, et nous sommes en train de conclure en une minute sa préoccupation et la dernière pour l'émission, puisque ça ne sera pas facile pour le moment. Tout n'est pas encore totalement bien peaufiné et bien assemblé. Qu'est-ce que vous comptez faire pour que vous vous rapprochiez toujours davantage avec le côté opposé pour réussir le dialogue et éviter justement que ça s'éternise et qu'on débouche par une souris, comme on dit souvent.
Bon, je pense que si nous allons tous dans ce dialogue inclusif, en nous considérant d'abord comme frères et en considérant que le Congo est notre héritage commun et que nous devons le léguer entier et prospère à nos enfants, comme nous l'ont légué nos parents, je crois que nous pouvons aller de l'avant.
Merci à vous, Christian Mwando Lambert Mende. En quelques secondes aussi, les dialogues des Congolais ont souvent tendance à s'éterniser. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous pensez qui sera mis en place pour qu'il se réalise réellement et qu'il débouche sur quelque chose de durable dans le futur?
Pour moi, il y a un espoir à voir la façon dont les choses se sont mises en place après toutes ces petites polémiques qui nous ont divisés ici et là, que ce soit quelque chose qui vienne des Congolais, puisque même la Conférence nationale souveraine est le produit du discours de la Baule. C'est la France, c'est la France-Afrique, c'est Mitterrand. Et Mobutu a attrapé au vol et a décidé d'obéir pratiquement au mot d'ordre du grand chef blanc. Cette fois-ci, nous avons quelque chose, et le reste, San City, c'était l'Afrique du Sud, etc. Maintenant, nous avons quelque chose qui vient de nous-mêmes, une dynamique interne.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette session. Si vous avez aimé cette édition, dites merci à Junior Kamunga qui l'a supervisé. Mise en nom de Dieudonné Nyangasa et présenté par René Linti Bonera Idi Amin.